Merci beaucoup. Si vous pouvez avoir une Bible ouverte devant vous, ce serait excellent. Il y a des Bibles un peu partout. Donc cherchez cela, on a besoin. Plus tard, on va faire un saut dans l'Ancien Testament. Bienvenue à vous si c'est la première fois ici. Notre pratique, c'est d'ouvrir un passage de la Bible et de le parcourir. Ce n'est pas sorcier, ce que nous essayons de faire. Ce n'est pas très compliqué. Nous essayons juste de découvrir ce que Dieu a à nous dire dans sa parole. La personne la plus mal comprise dans l'histoire, c'est qui? La personne la plus mal comprise. Je pense que ça doit être Jésus. Jésus de Nazareth. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment. Je ne sais pas si vous parlez autour de vous. Il y a des gens qui disent, oui, Jésus, c'était un chouette type. On l'aime bien. Il avait des belles choses à dire. Un message de paix, d'amour. Beaucoup de gens l'apprécient. Et c'est assez rare de trouver les gens qui sont vraiment contre lui. Ça arrive bien sûr. Mais pourquoi est-ce que c'est le cas? C'est parce que tout le monde a sa petite idée de qui est Jésus, de comment il était, ce qu'il a enseigné. Et du coup, il y a 10 000 portraits différents de Jésus dans la mentalité des gens. Et la question importante à se poser est ceci. Qui est le Jésus authentique? Qui est le Jésus authentique? Finalement, ce n'est pas si intéressant de se faire une idée de quelqu'un si cela ne correspond pas à la réalité. Peut-être vous avez un rendez-vous avec un nouveau patron au travail et vous faites des idées de comment il sera. Peut-être il va être strict, il va être dur et vous redoutez la rencontre. Mais en fait, il est très gentil et il vous donne plus d'argent par la suite pour le salaire. Ça ne sert à rien de se faire des idées sur quelqu'un si on ne le connaît pas personnellement. C'est la même chose avec Jésus. Parfois, on se fait des idées de lui sans le connaître véritablement. Nous devons savoir qui est le Jésus authentique. Comment il est? Quelle était sa mission ici sur terre? Quel était son message? Et comment vais-je me positionner par rapport à lui? Ce sont des questions importantes. Si vous êtes ici en mode découverte du message de la Bible ici ce matin, nous voulons voir qui est le Jésus authentique. Ou peut-être vous êtes déjà croyant de longue date et vous commencez à vous endormir déjà dans votre chaise en se disant « Mais bon, il va me parler de Jésus, je connais tout ça. Je peux me décrocher, penser à autre chose. » Non. Le danger pour le croyant, c'est de se faire une fausse image de Jésus. Et cela tord notre relation avec Dieu. Il est trop facile pour moi de m'inventer une image de Jésus qui me convient, qui ne me met jamais au défi, qui n'exige pas grand-chose de moi et qui ne me demande jamais de changer quoi que ce soit dans ma vie. Ce matin, nous allons découvrir ensemble Jésus authentique. Comme Jonathan a dit, nous sommes dans l'évangile de Matthieu depuis quelques semaines. Nous avons vu Jésus faire des choses extraordinaires. Il a guéri les gens par une simple parole. Il a calmé une tempête en fureur par quelques mots. Il a prétendu pouvoir pardonner aux gens le péché. Il est en train de montrer qu'il est le roi promis par Dieu dans l'Ancien Testament, celui qu'on appelait le Messie. Et il nous a donné un aperçu du monde nouveau qui va créer le royaume des cieux. Un peu comme la bande-annonce pour un film qui va sortir. Il nous a montré qu'il y aura un monde sans souffrance, où le mal n'existera plus. Et qui peut entrer dans ce monde? Mais nous l'avons vu la semaine dernière, si vous étiez là. Jésus est venu appeler des pécheurs. Non pas des gens justes. Des gens qui sont conscients qu'ils ont rejeté Dieu de leur vie, et qu'ils ont besoin de son pardon. Jésus ne cherche pas à remplir son royaume avec des gens religieux qui regardent les autres avec dédain à cause de leurs péchés. Non, il est venu pour ces pécheurs-là, pour toute personne qui demande pardon. Mais alors que Jésus nous montre qu'il est le Messie, et que son royaume c'est pour les pécheurs, il rencontre de plus en plus l'opposition de la part des scribes, des gens religieux. au verset 3, si vous avez le texte devant vous. Au verset 3, nous voyons, lorsque Jésus a pardonné les péchés d'un homme paralysé, les scribes, les enseignants de l'époque, se sont dit, il blasphème, il blasphème, il se prend pour Dieu. Et ensuite, lorsque Jésus appelle Matthieu, un collecteur d'impôts, à le suivre, les pharisiens posent la question suivante aux disciples au verset 11. Pourquoi Jésus mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les gens de mauvaise vie? Et la troisième question vient au verset 14 de notre passage ce matin. Les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Nous, nous jeûnons, et nous nous privons de nourriture afin de nous approcher de Dieu. Mais les disciples de Jésus, non, ils font pas ça. Le jeûne était mandaté une fois par an, seulement dans l'Ancien Testament, une fois par an, au jour des expiations. On appelle ça lorsque un agneau était sacrifié pour symboliser le pardon des péchés du peuple. Mais les Juifs de l'époque de Jésus en avaient fait une pratique régulière, le jeûne. Et ils n'arrivaient pas à concevoir que les gens qui croyaient en Dieu ne jeûnaient pas. Et la réponse que donne Jésus révèle deux choses importantes le concernant. Et à travers sa réponse, nous voyons le Jésus authentique. Nous devons y prêter attention. La première chose que nous découvrons, c'est Jésus est l'époux. Jésus est l'époux. Verset 15. Jésus répond à la question des disciples de Jean en employant l'image d'un mariage. Il dit ceci, « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux ?» Il dit, « C'est pas possible de porter le deuil lors d'un mariage. » Vous rappelez-vous le dernier mariage auquel vous avez assisté? Vous avez ça en tête? Est-ce qu'il y avait des gens là en tenue de deuil parmi les invités ce jour-là? Non, je pense pas. Si vous devez assister à un mariage cet été et que vous arrivez à un costume sombre, cravate noire et vous sanglotez haut et fort durant la célébration, comment serez-vous perçu? Ça va pas. N'est-ce pas? Au mariage, il faut se réjouir avec l'époux et l'épouse. C'est un jour de fête. Il ne faut pas porter le deuil. Ce n'est pas normal. Et ce que Jésus dit, ce n'est pas possible pour mes disciples de porter le deuil, de jeûner, car je suis l'époux et je suis là. C'est quand même assez osé ce que dit Jésus ici. Peut-être un enfant pourrait dire cela. Vous êtes tous contents parce que je suis là. Un enfant pourrait dire ça, on pourrait dire, ok, c'est un enfant, on comprend. Mais si un adulte nous dit, ah, vous êtes tous contents maintenant que je suis avec vous, qu'est-ce qu'on va penser de cette personne? Mais quelle arrogance! Pour qui se prend-il, cette personne? Mais c'est ce que Jésus dit ici, il dit, impossible de ne pas être dans la joie, car je suis là. Toute autre personne qui affirmerait cela serait considérée comme arrogante. Mais en ce qui concerne Jésus, ce n'est que la vérité. Car lorsqu'il emploie le terme « époux », il n'est pas seulement en train de dire qu'avec lui c'est la fête. Non, il emprunte l'expression de l'Ancien Testament. Et nous allons donc voir deux textes dans le livre d'Ésaïe, dans l'Ancien Testament, qui parlent de ce personnage, l'époux. Donc si vous avez la Bible avec vous, tournez avec moi à Ésaïe 54, pour voir ce qu'on apprend sur l'époux dans l'Ancien Testament. Ésaïe 54, et les versets 4 à 8, c'est à la page 730 dans la Bible sur les chaises. Ésaïe 54, page 730, versets 4 à 8. C'est Dieu qui parle à son peuple. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage, car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il se nomme Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Quelques instants, je t'avais abandonné. Mais avec une grande affection, je t'accueillirai. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face. Mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l'Éternel. Jusqu'à là, la lecture. Mais c'est qui l'époux, selon ces versets? C'est Dieu. C'est le Créateur de l'univers, le Rédempteur, l'Éternel, le Dieu de toute la terre. C'est Dieu qui est l'époux. Et à quoi ressemble la relation entre l'époux et son peuple? Dieu dit, avec une grande affection, je t'accueillerai. Avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi. L'époux, c'est Dieu lui-même dans la Bible. Son épouse, c'est son peuple, ceux qui croient en lui. Et la relation entre eux, c'est une relation d'amour. Voyons un deuxième texte en Ésaïe 62, qui parle de nouveau de l'époux. Ésaïe 62, 4 à 5. On voit à quel point il est important et utile de connaître l'Ancien Testament pour comprendre le Nouveau Testament. Ésaïe 62, versets 4 et 5. On te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. L'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi. Et ta terre aura un époux, comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Qu'apprend-on? De nouveau, l'époux, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Et quel est son regard face à son peuple? L'Éternel met son plaisir dans son peuple. Nous faisons la joie de notre Dieu. C'est extraordinaire. Une relation d'intimité et d'amour est possible avec le Dieu de l'univers. Et revenons à Matthieu 9. Lorsque Jésus se nomme l'époux, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire qu'il est Dieu. Pas un simple homme, pas un révolutionnaire politique, pas un enseignant religieux comme les autres, ou un personnage historique, mais Dieu lui-même, le Créateur de toutes choses. Il dit, je suis le Dieu de toute la terre, le Rédempteur, c'est lui qui vous aime d'un amour éternel. Et dans le Nouveau Testament, cette image continue de s'appliquer à la relation entre Jésus et son peuple. On pense peut-être à Éphésiens 5, lorsque la relation entre Jésus et son peuple est décrite comme étant comme la relation entre un mari et son épouse. Ou bien tout à la fin de la Bible, le nouveau monde est dépeint comme des noces de Jésus qui se marie à son peuple, avec son peuple. Il n'y a aucune connotation sexuelle dans le fait que Jésus est l'époux. Il s'agit d'une relation d'intimité, d'amour, de fidélité et d'engagement de sa part envers nous. Et cela change notre façon de concevoir Jésus, n'est-ce pas? Il est facile de penser de notre relation avec Dieu en termes assez brefs. Je connais Dieu, il m'a pardonné. Oui, mais savais-tu qu'il est ton époux? Qu'il t'aime d'un amour éternel? Qu'il t'aime mille fois plus qu'aucune personne sur cette terre ne pourrait t'aimer. Est-ce que notre relation avec Dieu est un peu froide pour l'instant? Est-ce qu'on n'a pas vraiment envie de lui parler ou de l'aimer ou de parler de lui autour de nous? Regardons de nouveau à Jésus, cette fois-ci en le considérant comme l'époux parfait. Le fait qu'il soit l'époux nous donne de la joie, mais aussi une grande assurance qu'il ne va pas nous lâcher. Lorsque nous parlons d'amour et de mariage dans notre société, ces termes sont malheureusement vite associés à la séparation et au divorce. Si nous sommes en couple, nous avons un petit peu peur que l'autre pourrait nous quitter un jour. Et c'est pour cela qu'on trouve des articles intitulés « Comment garder sa femme ?» ou son mari, 20 conseils. Mais dans notre relation avec Dieu, nous pouvons facilement tomber dans ce genre de pensée aussi. Et si Dieu me lâchait? Et comment puis-je faire pour garder mon Dieu? Alors on passe à toutes sortes de pratiques religieuses, on va à l'église, on essaie de prier, de lire sa Bible, etc. En espérant que Dieu ne nous lâche pas. mais le fait que Dieu soit notre époux veut dire qu'il ne nous lâchera jamais. Jamais. Si nous avons placé notre confiance en Jésus, Dieu nous aime d'un amour éternel. Et il n'y a rien qui puisse changer cela. Cela nous donne la paix dans notre âme, n'est-ce pas? Et Jésus dit, je suis l'époux, pas question de faire le deuil en ma présence. Aux pharisiens qui voulaient jeûner, il dit, vous n'avez pas compris qui je suis. Je suis l'époux, Dieu lui-même, venu pour chercher son épouse, mon peuple. Mais quand même, à la fin du verset 15, il dit qu'il viendra un moment où les disciples devraient jeûner. Il dit, les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Et alors, ils jeûneront. Ici, nous avons le langage d'Ésaïe 53, où le serviteur qui va mourir pour les péchés du peuple est enlevé et retranché. Et cela parle ici de la mort de Jésus. Jésus sait très bien qu'il va mourir pour les pécheurs. Sur une croix romaine, il va porter nos péchés sur ses épaules. Il va recevoir le châtiment qui nous donne la paix avec Dieu. Et à ce moment-là, ce serait approprié de jeûner, dit Jésus, lorsque Jésus est en train de mourir à la croix. Mais ce n'est pas le moment. Tant que je suis avec vous, dit Jésus, je suis l'époux. C'est la fête. Ce n'est pas le moment de jeûner. Mais c'est un époux qui va jusqu'à la mort pour nous sauver du jugement de Dieu, pour nous donner une place au banquet qu'il prépare. Et c'était l'attente que l'on trouvait dans l'Ancien Testament, que le Messie allait instaurer son royaume lors de sa venue, qui allait ressembler à un grand festin avec du vin nouveau et des mets succulents. Et Jésus dit, le moment est venu pour ça. J'instaure le nouveau royaume. Cette ère messianique inaugurée par la venue du Messie est là. Il est impossible de continuer comme avant. Et dans le Jésus authentique, il est l'époux, premièrement. Et si nous avons vu qu'il est l'époux, il est aussi celui qui change tout. Celui qui change tout, ça c'est notre deuxième point, les versets 16 et 17. Jésus change tout. Comment est-ce que l'histoire se divise? S'il fallait diviser l'histoire en deux parties, comment est-ce qu'on fait ça? C'est avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ, n'est-ce pas? C'est quand même remarquable qu'un homme qui a habité pendant 33 ans au Moyen-Orient, dans un petit village, a pu avoir autant d'impact sur notre monde. Mais c'est ce qu'il a fait, et c'est exactement ce que Jésus dit ici. Avec ma venue, rien ne peut rester comme avant. Tout va changer. Tout va changer. Il accomplit le message qui était proclamé dans la première partie de la Bible, l'Ancien Testament, et il apporte du nouveau. Le message qu'il a proclamé, c'est le salut pour tous, pas seulement le peuple juif, mais tous ceux qui font appel à Jésus. Nous n'avons plus besoin d'accomplir des rites de l'Ancien Testament, ni d'obéir à la loi de Moïse pour jouir de la bénédiction de Dieu. La relation avec Dieu passe uniquement par Jésus, par sa mort sur la croix. Il change tout. Et c'est ce que les disciples de Jean, les pharisiens, n'avaient pas compris. Ils demandent, est-ce qu'on peut continuer nos pratiques religieuses comme avant? Et Jésus dit non, non, l'époux est là, ça change tout. Et c'est le sens des deux illustrations que Jésus donne, versets 16 et 17. On ne peut pas juste ajouter le nouveau à l'ancien et s'attendre à ce que ça se termine bien. Ça ne marche pas de coller le nouveau sur l'ancien sans rien changer. Jésus, le nouveau, et la religion des Juifs de l'époque ne vont pas bien ensemble. Jésus apporte la nouveauté. Et les pharisiens et les disciples de Jean auraient dû le reconnaître. Ils auraient dû se réjouir que Jésus appelle les pécheurs à le suivre. Mais au lieu de faire ça, les pharisiens râlaient en disant « Un homme de Dieu ne côtoierait jamais ces gens-là. » Ils auraient dû se réjouir que quelqu'un est venu sur terre avec le pouvoir de pardonner les péchés et nous donner la vie éternelle. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Pour qui se prend-il, cet homme? Jésus dit, j'apporte du nouveau. Les mentalités anciennes doivent changer. Regardez au verset 16. Jésus nous fait un cours de couture ici, ce qui est très utile pour moi, car je ne m'y connais pas du tout. Il s'agit de réparer des vêtements. Je ne sais pas s'il y en a ici qui réparent encore des vêtements avec un tissu neuf. Mais Jésus dit, on peut pas réparer un vieil habit avec un morceau de tissu neuf qui n'a pas été traité, qui ne s'est pas rétréci comme le vieux habit. Car dès que le tissu neuf se mouille, que se passe-t-il? Il se rétrécit et déchire l'habit en prenant avec lui une partie du vieil habit. C'est ce que Jésus dit à verset 16. Personne ne met une pièce de drap neuf, un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. Jésus dit, personne ne penserait à faire cela. Ça n'a pas de sens. Et de même, il est impossible juste de coller le nouveau sur l'ancien comme si rien n'a changé. On ne peut pas juste ajouter Jésus au judaïsme sans qu'il n'y ait des changements profonds dans les croyances et dans les pratiques. Notre relation avec Dieu ne passe pas par la loi, ni par des rites, des règles, mais par la mort de l'époux à notre place. Et ces privilèges sont accessibles à toute personne, de toute nation et de tout arrière-plan qui reconnaît Jésus comme son sauveur et son Seigneur. C'est du nouveau. Impossible juste de l'ajouter à l'ancien. Et la deuxième illustration, verset 17, dit plus ou moins la même chose, mais souligne aussi qu'avec le nouveau message, il y aura de nouvelles pratiques. Nouveau message, nouvelles pratiques. Voyons cela ensemble, verset 17. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rampent, le vin se répand et les outres sont perdues. Ici, on peut s'imaginer la production du vin à Bordeaux ou à Saint-Émilion, dans la région de Bordeaux. On peut demander à Antoine, notre expert ici de vin, de production de vin. J'imagine qu'on ne fait pas le vin maintenant dans les outres de la peau d'animal. Plus maintenant, non? Non. Mais à l'époque, on faisait ça avec la peau séchée d'un animal et le vin pouvait se fermenter dans ces outres. Mais une fois que ces outres devenaient vieilles, elles devenaient fragiles et pouvaient se rompre facilement. Et si on y mettait du vin nouveau qui était encore en train de se fermenter, ça allait produire du CO2 et les outres allaient exploser. Et dans ce cas-là, dit Jésus, on perd à la fois le vin, triste, et les outres. C'est un désastre. Que doit-on faire avec du vin nouveau? À la fin du verset 17, Jésus nous le dit. On met le vin nouveau dans des outres neuves. Et le vin et les outres se conservent. On met le vin nouveau dans des outres neuves qui sont plus solides. Et on garde à la fois le vin et les nouvelles outres. Il dit, pour accueillir pleinement ce qui est nouveau, il faut de nouvelles structures et de nouvelles pratiques. Avec Jésus, le nouveau est venu, le banquet du Messie est là, et les pécheurs y sont invités. Et cela marque un grand changement avec la religion de l'Ancien Testament. Vous avez peut-être remarqué qu'on ne parle plus de temple dans le Nouveau Testament. Alors qu'on en parle beaucoup dans l'Ancien Testament, mais la venue de Jésus change tellement la donne. Nous n'avons plus besoin d'un bâtiment spécial pour nous approcher de Dieu. Ici, le bâtiment n'est pas un temple. Dieu n'est pas plus ici qu'il est dans l'école secondaire à 300 mètres d'ici. Nous n'avons plus besoin du temple, car Jésus est le temple. Nous nous approchons de Dieu par Jésus. Et cependant, il faut faire attention, car parfois des mouvements religieux essaient de garder la forme de religion de l'Ancien Testament. Les adventistes du septième jour, par exemple, mettent tellement l'accent sur la loi du sabbat et l'interdiction de manger du porc, on peut se demander, mais est-ce qu'ils ont bien compris la nouveauté que Jésus apporte. L'Église catholique en est un exemple aussi. Elle reflète beaucoup la religion de l'Ancien Testament. Où dans la Bible parle-t-on des prêtres? C'est dans l'Ancien Testament, pas dans le Nouveau Testament. Mais dans l'Église catholique, il y a des prêtres. Où parle-t-on d'autel? dans l'Ancien Testament, plus dans le Nouveau Testament. Ou parlant de sacrifice dans l'Ancien Testament. Mais dans l'Église catholique, la messe qui est offerte à Dieu représente un sacrifice sur l'autel. Ils appellent ça pas une table, mais un autel. C'est la religion de l'Ancien Testament, sans apercevoir qu'il y a eu un gros changement avec la venue de Jésus. C'est lui le prêtre. C'est lui le sacrifice. C'est lui qui est mort pour nous donner accès à Dieu. Le catholicisme n'a pas reconnu le changement qu'a apporté Christ. Jésus apporte du nouveau. Mais pour nous aussi, parfois nous parlons de cette manière aussi. Nous parlons du bâtiment de l'Église comme si c'était le temple, et ce ne l'est pas. Ou parfois on donne l'impression que la mission que Dieu nous donne, c'est juste attendre jusqu'à ce que les autres viennent nous poser des questions sur Jésus, sur Dieu. Mais ça, c'était dans l'Ancien Testament. Israël devait être une lumière pour les nations qui attirait les autres vers le peuple. Mais nous, qu'est-ce que Jésus nous dit à la fin de cet évangile? Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples. Une nouvelle structure que Jésus apporte. C'est aussi l'Église, le rassemblement des croyants. On n'a plus de synagogue, on est dans l'Église. Le rassemblement de croyants de toutes nations autour de Jésus-Christ. Jésus change tout. Il ne rejette pas l'Ancien Testament, nous ne devons pas le rejeter non plus, mais il apporte une nouveauté qui accomplit l'Ancien Testament, qui le dépasse pour apporter une réalité plus glorieuse. Jésus change tout au niveau de l'Église, mais au niveau personnel aussi. Et si vous n'êtes pas encore croyant en Jésus, il faut savoir qu'il ne faut pas juste ajouter Jésus à tes croyances déjà existantes. Je crois à tout plein de choses et Jésus, c'est chouette aussi, je vais l'ajouter à mes croyances. Non, Jésus doit devenir le centre de nos croyances. Il doit devenir la priorité pour nous. Pas juste une autre chose qu'on va mettre sur la liste de nos priorités. Jésus change tout. Et il faut y réfléchir si, oui ou non, on veut devenir chrétien. Est-ce qu'on est prêt à ce que Jésus change tout chez nous? Ce sera pour le mieux. Et si nous sommes déjà croyants en Jésus-Christ, est-ce que nous courons le danger des disciples de Jean et des pharisiens de rater la grandeur de ce que Jésus est venu faire et juste continuer avec la routine des pratiques religieuses? On va à l'église, on essaie de faire le bien autour de nous, on prie de temps en temps. Mais on oublie que notre relation avec Dieu ne dépend pas de nos œuvres, ni de nos pratiques religieuses, mais bien de la mort de l'époux à notre place. Celui qui nous aime d'un amour éternel, c'est lui le médecin, nous avons vu la fois passée. C'est lui qui pardonne le pécheur et qui l'invite à manger lors de son banquet céleste. Jésus dit, l'époux est venu. Le banquet messianique a commencé. Les pécheurs comme nous y sont conviviés. Et ça provoque un scandale chez les pharisiens qui veulent continuer ces pratiques, leurs pratiques religieuses comme auparavant. Mais c'est une bonne nouvelle pour toute personne qui croit en Jésus. Pas dans le Jésus de sa propre imagination, mais le Jésus authentique, tel que nous le découvrons dans les pages de la Bible. Le Jésus authentique n'est pas un porte-bonheur qui m'aide à surmonter les difficultés de la vie. Si on pense ça, on n'a vraiment pas compris qui il est et qu'il est venu, ce qu'il est venu accomplir. Le Jésus authentique, c'est l'époux, Dieu lui-même, qui aime son peuple d'un amour éternel. Et si ça c'est vrai, il change tout. Prions ensemble. Notre Père, te louons pour Jésus. Merci parce qu'il est l'époux promis. Dieu lui-même venu pour chercher son épouse. Et merci parce que nous pouvons faire partie de son peuple si nous plaçons notre confiance en lui. Merci parce qu'il a été enlevé, retranché de la terre en mourant sur la croix pour nous, en prenant le châtiment que méritaient nos fautes et en nous offrant la vie éternelle. Et nous prions que nous puissions voir Jésus tel qu'il est, le Jésus authentique, ce Jésus glorieux, plein d'amour envers son peuple. Et celui qui change tout. Seigneur, qu'il puisse tout changer chez nous, que nous ne puissions pas résister au changement qu'il veut opérer dans notre vie. Et que nous puissions nous rendre compte à quel point il a tout changé en venant sur terre. Et que nous puissions attendre avec impatience son retour pour que nous soyons avec lui dans les noces de l'agneau à la fin des temps. Et nous t'en prions en son nom. Amen.